Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Donc, c'est-à-dire que si tu me dis la crime en légende du rap français, alors que moi je kiffe, hein. Mais dans ce cas-là, tu mets Damso, tu mets Nekfeu, tu mets Jules, t'en mets plein aussi.
Mais j'ai pas dit que je les mettais pas.
Oui, mais ce que tu vois pas,
c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de légendes.
C'est ça, légende, en fait, c'est un statut que très peu peuvent atteindre. C'est une référence.
C'est une référence. À partir du moment où tu deviens une référence dans le rap français, tu deviens une légende.
Pas pour moi,
si tu veux.
Attends,
tu parleras jamais de la crime.
J'avais pas de la crime à mes enfants. Pas de la crime à mes enfants. Pas de banditisme.
Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé, et t'es branché sur Deal et Terme. Alors, avant de commencer cet épisode, très important de le dire, les épisodes de Deal et Terme sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Donc si vous n'avez pas envie de voir nos têtes, mais que vous voulez quand même entendre ce qu'on a à dire, on est disponible là-bas. Bon là, on va commencer l'épisode et on va parler d'un rappeur qui a été l'un des rappeurs les plus marquants de la dernière décennie dans le rap français. Il s'est fait connaître pour son influence, pour ce qu'il a proposé musicalement parlant, même businessment parlant. Je parle de La Crime, comme les gens ont pu le voir sur le titre. Et pour parler de ça, on a l'équipe type, l'équipe habituelle. Comment vous allez ?
Très bien.
Ça va. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. C'est moi qui n'ai pas dormi cette nuit, mais j'ai l'impression que vous êtes KO.
On est bien, t'inquiète.
Ok, cool. Bon, aujourd'hui, on va parler de La Crime. Et on va commencer par quelque chose de très simple, en fait. Quel est le morceau qui vous a marqué de La Crime ? Le premier morceau qui vous a vraiment marqué, que vous avez écouté ?
Luca Brasi.
Ok. Mmh. Pourquoi ?
Parce que il est dans sa période, c'est quoi, c'est 2010, je crois ?
2013.
T'as vu, il est dans une période de feu un peu. Il sort Luca Brasi, c'est là où vraiment, moi, je me prends La Crime, tu vois. Je vois Rebeu, énervé. Morceau grave agressif, je me dis « Oh, mais c'est qui ce gars en colère, tu vois ?» et je pense il y a d'autres sons derrière qui me marquent, tu vois, mais j'attache Luca Brasi, enfin, je choisis Luca Brasi parce que c'est le début, tu vois, c'est le début. C'est à ce moment où je me dis « Ah, je crois que j'aime bien ce que cet artiste propose, tu vois. »
C'est vrai qu'au début, lorsqu'il arrive comme ça, avec ce côté très énervé, cette voix rock et tout, c'est un truc qui détonnait un peu par rapport à ce qui se faisait dans le rap à cette époque-là. Est-ce qu'à ton avis, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, il s'est démarqué, que d'autres gens ont apprécié ?
Ouais, je pense qu'il avait... En fait, il dégageait ce truc de... Tu sais, les DZ, ils sont très... Ils ont besoin d'un représentant, etc. Et je pense qu'il représentait parfaitement ce que les DZ attendaient, tu vois. Et déjà, ça lui a ouvert une énorme porte, tu vois, parce qu'ils se sont sentis représentés par un mec bien énervé qui rappe aussi un vécu. Et je pense qu'à ce moment-là, ça fait la différence, tu vois. Parce qu'il a ce côté, comment dire, il a ce côté agressif, qui se perdait un peu, qui l'a remis un peu au goût du jour à sa façon. Et je pense qu'à ce moment-là, ça lui permet, lui, de se démarquer.
Ouais. Et vous ?
Moi, je pense que c'était La Rue Assez Dit Bon. Okay. La Rue Assez Dit Bon, je crois que c'était sur l'album de Mister You, il me semble, sur le projet de Mister You. Parce que c'est Mister You aussi qui met en avant La Crime à une certaine époque, qui le met en lumière. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est en fait...
C'est le premier projet de La Crime, je crois.
C'est sur Liberté provisoire. Mais c'est sur l'album de Mister You aussi, je crois.
Okay.
C'est sur l'album de Mister You. Et je m'en rappelle, je crois, le premier truc qui m'a frappé, c'est de comme il disait Nico, c'est déjà... Ce côté agressif, le vécu aussi qu'il rappait, toi, dans ses textes, tu sentais il y avait un certain vécu, on va dire, de l'illicite.
Mais en fait, le truc, est-ce que justement, ce qui a fait que sa musique a beaucoup plu à ses débuts, je crois que quand il sort, je crois qu'il avait fait 8 ans de placard dans les années 2000. Donc il a un côté dans sa musique.
C'est ça, c'est que déjà, il a été en détention plusieurs fois. Je crois, je sais pas si c'était liminaire, il était en détention, mais plusieurs fois il était en détention. Et même après, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure aussi, c'est un des premiers artistes qui certes rappait la cité ou la banlieue, appelle ça ce que comme tu veux, mais qui avait aussi un côté où il rappait des choses qui étaient un peu mal vues.
Ça parlait de pur, ça parlait de rap d'homme, des sujets comme ça, on va en parler tout à l'heure. C'est, non, mais c'était des choses qui étaient.
Il a un rap de mafioso. Ouais.
C'est ça, de cartel, de mafieux, de banditisme un peu aussi. Et il faut savoir qu'il a fait une grosse image. Enfin, je trouve qu'il a bien travaillé son image. Parce que depuis longtemps, il était déjà dans les trucs de Corleone. Premier album, il s'appelait Corleone. Ouais. Mais déjà très tôt, il a dit que mon premier album s'appelait Corleone. Mm-hmm. Il y avait aussi Luca Brasi, je pense que c'est un game changer. Moi, j'ai assez dit bon au début, mais Luca Brasi, je pense qu'il passe un cap. Tu vois, il passe un cap dans son image, il passe un cap dans sa musique. Même les refrains, ils sont un peu plus travaillés. Même, de toute façon, on va en parler tout à l'heure. Mais je pense que c'est cette époque-là. Là, Larua, c'est Diban. Et après, tu as Luca Brasi en 2013, clairement. C'était vraiment c'était costaud.
OK. Ouais. Et toi, Céline?
Je pense que c'est vers la même époque donc de Liberté Provisoire. Les débuts avec You, c'était incroyable. Et ce qui marque surtout l'image de Lacrim, c'est sa voix.
Ouais.
Il est identifiable, tu mets 10 rappeurs, 20 rappeurs, tu les enchaînes juste à l'audio, tu vas reconnaître Lacrim immédiatement. Et son identité a été tellement forte. Et du coup, tu étais obligé déjà de t'intéresser au perso, à ce qu'il raconte. Et les punchs, la manière de justement, son flow saccadé aussi un peu. Il avait une identité hyper particulière et à lui dès le début.
Ouais.
Même ce qu'il raconte, quand tu disais, tu vois, ce côté vécu, parce qu'il a fait les allers-retours et tout, et on le sent, que c'est réel et c'est la justesse, en fait, surtout. C'est comment il emploie les mots, les punchs, la justesse, parce qu'il raconte ce qu'il vit. Donc, plus la voix, en fait, il y a tout qui conforme bien avec son identité, ce que lui veut renvoyer aux gens et lui-même. Donc, ça fonctionne et on se prend direct le truc, en fait. Ouais. Tu vois.
Est-ce que finalement, que c'est pas justement l'un de ces derniers gros rappeurs à avoir réussi grâce à un gros vécu? C'est-à-dire que quand les autres rappeurs arrivent dans les années 2010, finalement dans le rap français, ils n'ont pas forcément un vécu aussi costaud.
Tu parles un vécu de rue, tu veux
de
dire?
De rue, ouais,
parce ou un que vécu là, tout simple.
Non,
de
non,
vie.
Non, 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 de vie, forcément.
Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai.
Plus de. Ouais, là, on parle de la rue.
Ouais, je pense que. Ouais,
je pense que c'est l'un des.
Après,
derniers,
surtout, c'est parce qu'il n'a pas peur de parler aussi, tu vois. Et d'employer des mots aussi, ce que disait un peu Kirsch, c'est évident. C'est que, il osait peut-être aborder des trucs qui n'étaient pas abordés avant, où là, il mettait clairement
les
mots
en fait.
Qui. Voilà, il passait pas par quatre chemins, en fait. C'est ça.
Il allait les pieds dans le plat, c'était assez brut.
Voilà, c'était brut, c'était direct.
Et là où d'autres avaient peut-être pu y aller, c'était clairement du cinéma, c'était du storytelling. Alors que lui, on sait qu'il a toujours joué un peu, il était déjà dans les délires Corleone et tout, donc en fait, lui aussi il jouait avec cette image-là. Mais malgré tout, comme on connaît son parcours, on sait que c'était aussi du sérieux, tu vois, c'était aussi crédible. Donc il y avait ce mélange chez lui entre le côté un peu romancé, storytelling, j'incarne un perso très déter, l'honneur, le machin, et effectivement, il y a un aspect très, très brut de pied dans le plat, là où d'habitude, peut-être que ça tournait autour du pot, ou que ça suggérait, ou quoi, okay. Lui, c'était comme ça, tu te prends le truc, et surtout, ça le rendait crédible, et pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est ça aussi qui a énormément fait pour sa carrière, c'est pour beaucoup de gens, en tout cas, qui étaient assez sensibles au côté vécu, à ce que tu incarnes et à comment tu le retranscris, tu peux pas faire mieux. Après, moi, ça m'a moins hypé musicalement que par rapport au perso, son aura, son charisme, ce qui dégage, sa voix, etc. Où là, effectivement, vers 2012-2013, même si je le connaissais avant, c'est là où j'ai commencé à me dire « Ok, je capte le truc, je capte pourquoi ça fonctionne ». Et pourquoi certains le trouvent aussi fort, là où moi je passais un peu à côté. Et parce que finalement, c'est global. Ouais. Lacrim, c'est global. Tu peux pas juste te dire est-ce que c'est un mec qui
est technique.
Est-ce
que c'est un punchliner?
Est-ce que c'est un mec qui rappe bien? Est-ce que c'est pas ça. En fait, c'est
le package.
C'est le package complet. Quoi. Et à ce moment-là, effectivement, je me suis dit ok, je capte. C'est puissant, en fait. Ouais. Lacrim, c'est puissant. Ouais. Après, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Pourquoi ça parle à certains, pas à d'autres, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, force est de constater que, quoi qu'il arrive, Lacrim, c'est puissant.
Et en plus, pour le coup, Lacrim, il me semble qu'il a commencé à rapper en 2009 ou 2008, quelque chose comme ça. Avant, il ne rappait pas du tout.
Ouais.
Il me semble que c'est bien ça. Et comme il dit Kroniker, c'est vrai que pour moi, c'est clairement pas le meilleur rappeur.
Ouais.
C'était pas le rappeur le plus technique, celui qui avait le plus de flow, mais c'est celui qui disait le plus de choses qui étaient en phase avec une certaine réalité que certains vivaient.
Soit tu vivais cette réalité-là.
Justement, mais... justement, si je parle de ça, c'est pas pour faire le bandeur de technique ou quoi, mais c'est parce qu'au début des années 2010, il y avait justement ce...
Un rap technique.
Ouais, voilà, alors que lui, il était en décalage de ça.
Alors que lui, il était complètement à côté de la plaque. Je veux dire, moi, c'est pas le clairement, rappeur, mais... En tout cas, c'est vrai que c'était à contre-courant de cette nouvelle vibe qui repartait au début des années 2010.
En fait, comme j'aime bien dire, tu vois, la crème, moi, je le mets dans la case des mecs de dehors qui sont devenus rappeurs.
Ouais.
Pas des rappeurs qui parlent de choses qui se passent dehors. C'est pas la même chose, en fait. Mmh. Il arrive un peu, on va dire, je sais pas, c'est par hasard dans le rap. Mystery, il lui met le pied à l'étrier, mais il écoutait déjà du rap d'après ce qu'il disait aussi. Mais de base, c'était pas quelqu'un qui était destiné à avoir une carrière dans le rap. Il faisait d'autres choses, tu vois. Mmh. Et ce qui m'a frappé, moi aussi, je me rappelle, à l'époque, en fait, il y avait ces phases où des fois, tu sais, les gens, ils se posaient la question, mais est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent, est-ce que c'est pas vrai ce qu'ils disent, même à la rue, à Cédibon. Je me rappelle, il y avait la phase qui m'avait le plus frappé, la première, fois, c'était, ouais, je crois, c'était, dans le chargeur, la cartouche rentre, un alibi, je traîne ton corps en Poitou-Charente. Et je me rappelle, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est rare. Alors, mais toujours, et je me disais, donc, en fait, tu prends un mec, tu traînes en Poitou-Charente. Tu sais, en fait, mais en vérité, c'est des débats qui se faisaient pas, parce que à l'époque, c'était tu pouvais pas rapper ce genre de sujet.
Tu pouvais pas être aussi concret, en fait.
Voilà, en fait, il y avait très peu de rappeurs qui rappaient ce type de sujet. Il y avait deux sujets qui étaient tabous, c'était la blanche et ouais, les histoires de donnage de goût, banditisme. C'est pas des choses qui se faisaient. Ouais. Donc lui, il arrive, c'est comme s'il met un coup de pompe dans la porte. Ouais, j'en parle. Et même, il arrivait aussi, je me rappelle très bien, je crois c'était à D'où je viens, tu connais. C'est rare que tu voyais un rappeur rebeu en mode Kaira, torse nu, bouteille de Jack, qui parle de blanche, qui parle de banditisme. En fait, il y avait trop d'enfants en même temps.
Trop,
je te jure, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas deux. Finalement, en fait, quand tu penses à la crime, il n'y en a pas deux. Mais moi, c'est influencé beaucoup d'artistes.
Les freestyle acte de rue, là.
C'était trop.
Ouais, il était là.
Tu vois.
Il était pas en cavale pendant les freestyles acte de rue.
Ouais, il y a une période où il était en cavale.
Il y a une période où il était en cavale. Tu voyais. Enfin, des freestyles sortaient de nulle part. Ça arrivait sur Internet, torse nu.
De
une
ouf.
Grosse barbe. Tu te disais, mais il est où
plus,
déjà
il a gravité à Marseille aussi.
Et bah déjà, en fait, déjà, le flou au début, tu vois, sur Marseille 9-4, on savait même pas si c'était un rappeur de là-bas, si c'était un rappeur du 9-4, mais tout sonnait vrai. T'as vu
ça
se trouve même peut-être, il a peut-être rajouté des trucs, mais ça sonnait vrai. Ouais. C'était plus, bien c'était raconté.
Et en plus, pour rebondir sur ce que dit Nico, je crois que c'était un peu des premiers artistes qui a fait voyager un peu dans ses clips. Parce que Luca Brasi, il me semble que c'est un rap d'homme, il me semble. Et tu vois, il avait toujours ce côté rap d'homme, en tout cas en mots-clés. Rap d'homme, Dubaï, Marbella, tout ça, l'Espagne. Il est
toujours
en
cavale.
Toujours à gauche, à droite. Mais
en fait, tu sens que très vite, il a voulu être gros. Très, très vite, il a voulu être gros. En fait, quand tu regardes, à partir du moment où ça commençait à être à peu près sérieux, c'était tout de suite des clips, effectivement, à droite, à gauche. Quand tu regardes un, très, très vite, il a sauté fité avec des caries, des gros caries, machin. Il voulait tout de suite imprimer son truc et s'imposer, quoi.
Mais c'est justement ça, en fait. C'est que quand on regarde la crime, on a l'impression qu'il a tout de suite voulu avoir ce côté international. Mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi lié aussi à son histoire, etc. Le fait qu'il n'ait pas vécu toujours au même endroit, etc. Mais musicalement parlant, lorsqu'on parle de la bouteille, Marbella ou quoi, j'ai l'impression qu'aussi c'est l'un des premiers rappeurs, mais je vais vraiment dire pour le coup rebeu, qui a réussi à prendre ce qu'il y avait un petit peu à l'extérieur chez les Quinry, mais je sais pas, l'adapter à la France. Par exemple, ce côté mafioso, c'est un truc qui se faisait déjà là-bas, Jay-Z, il est connu pour ça, par exemple. Mais je sais pas, il a réussi à bien l'adapter, et il y avait un côté vachement réaliste, étant donné qu'il sortait de prison. Ça aussi, c'est un truc très, très Quinry, finalement, tu vois.
Et moi, je pense que le storytelling a compté. Bah, en fait, mine de rien, et vous me direz si je me trompe, si j'ai des bons souvenirs, quand il arrive, quand il fait Liberté Provisoire, enfin, il fait Liberté Provisoire, avant qu'il signe à Def Jam.
Toujours le même.
Voilà, en attendant la crime, dans tous ces projets-là, toujours le même aussi, je crois que c'est en 2012, bah, tous ces projets-là, il en indé, il a déjà construit un peu un storytelling. Mais quand il signe à Def Jam, à l'époque, il y a aussi l'apport de corps. C'est-à-dire qu'on est entre le storytelling que lui avait commencé à raconter, l'apport de la maison de 10 dans le fait de construire une star, en fait, une star des quartiers qui parle de certains sujets, storytelling à fond, plus la musique aussi qui est très américanisée, mais je pense qu'il y a eu l'influence de Core et de Belek sur ça. Core, sur Corleone, il lui fait passer clairement un cap.
Ouais, mais c'est ça. Après, ça avait été vachement critiqué.
C'est plutôt bien, je trouve.
Ça avait été vachement critiqué, justement, à l'époque de Corleone, parce que il disait, voilà, parce que c'est le moment où il signe chez Def Jam, et évidemment, il rentre dans des titres, Barbade, tout ça, des titres où il est un peu plus ouvert, justement, où il rentre dans d'autres cadres. et qui sortent justement de son cadre à lui. Et du coup, tout de suite, il a été vite un peu critiqué parce que tout le monde se disait, bah voilà, t'es rentré en maison de disque, maintenant tu vas arrêter de faire du lacrime pur, dur, comme on aime, brut, et tu vas aller vers ce que les maisons de disque attendent de toi. Et ça, par contre, il a toujours répondu sur ça, lacrime, en disant que non, il faisait des trucs spontanés et qu'effectivement, c'était des nouvelles propositions artistiques que lui proposait au public, mais qui venaient naturellement avec effectivement des nouveaux beatmakers, des nouveaux producteurs qui créaient une nouvelle pour créer une nouvelle musique. Mais c'est vrai que cette période-là, ça a été vachement critiqué parce que le public a eu peur, en fait. Il s'est dit, le lacrime qu'on a, qui est authentique, brut, réel, crédible, tout ce qu'on veut, ce qu'on attendait, ce qui nous manquait, limite, bah, peut-être qu'il va faire des trucs un peu plus ouverts, un peu plus commercial pour satisfaire les maisons de disques.
Et au final, le premier single qu'il envoie pour Corleone, c'est « Mon Glock te mettra à genoux », et en vrai, il remet tout le monde d'accord. Tu vois, c'est juste que quand le projet il sort, forcément, t'es un peu surpris par certains morceaux, mais moi, en tant qu'auditeur de lacrime à cette époque, t'as vu, quand j'écoute Corleone, je m'y retrouve. Tu vois, je m'y retrouve, et c'est vrai que les sons comme, j'oserais pas dire Barbade, mais ce son-là, les sons un peu plus ouverts, les tentatives, tu vois, qui fait sur ce qui sont réussis, hein, tu vois, moi, je me les prends pas tout de suite. Tu vois, je suis de ceux qui sont en mode, c'est pas ce que j'attends de la crime, mais je comprends, et un peu plus tard, je capte le délire, et en fait, je me dis, ouais, non, en vrai... Corleone, c'est...
Non, mais en vrai, ça reste du lacrime. C'est juste une évolution,
c'est
en fait.
C'est un album classique.
Mais du coup, c'est une question globale que je voulais vous poser sur Corleone. Vous en avez pensé quoi, globalement, lorsqu'il a sorti cet album après ça,
quand il le sort ou maintenant, en tout cas, moi, je sais
Même avec le recul.
Avec le recul, moi, je pense que c'est son meilleur projet. Je pense que c'est son meilleur projet dans le sens où il sort de l'indé. Il a la dalle encore des débuts, il a encore des choses à dire. Il me semble, en plus, quand il sort « Mais pour mourir », où il y a Luca Brasi en 2013, quand il sort « Corleone » juste après, il sort de détention. Quand « Né pour mourir » sort, il me semble qu'il est en détention. Et quand il revient avec « Pocket Coffee » aussi, ouais, « Pocket Coffee » sur l'album « Corleone », bah tu sens que il en a encore sous la semelle, il veut faire des choses. Et après, comme elle disait Céline, c'est vrai qu'il attendait des choses et que c'était un peu mal perçu. Mais moi, je me suis plus pris des morceaux comme Awa avec French Montana. En plus, je crois que c'est le morceau le plus streamé. C'est classique, clairement.
Je pensais que c'était que moi.
Non,
mais c'est un des classiques. Mais par contre, il n'est pas assertif. Ça qui est ouf.
Parce qu'en fait, on s'en parlait off juste avant. Mais est-ce que c'est pas à cause des réformes, comme c'était avant les réformes des streams?
Je crois qu'il a plus de 100 millions de streams ou 60 millions de streams.
Ça m'étonne qu'en tout cas il n'ait pas affiché. Peut-être que la Snap, ils ont mis une certif, je sais pas.
Mais il est sorti quand?
Il est sorti en 2014. Et clairement, et je pense que c'est ce qui lui convient.
Stream, peut-être, c'était pas encore exactement.
Il n'y avait pas encore, c'est 2015.
Mais actuellement, parce que c'est toujours un titre qui stream de ouf, même au jour d'aujourd'hui.
Et je pense que c'est le morceau qui lui. Enfin, pas qui le ressemble le mieux, mais c'est l'ambiance club. C'est pas forcément un truc single,
c'est un peu lui finalement, tu vois.
C'est drôle parce qu'en France, les featuring avec les Quinry, ça marche pas forcément. Ouais, et en fait, Lacrim, il a réussi à avoir un putain de classique avec un Quinry, et franchement, c'est le seul qui a un classique comme ça, tu vois.
Vous êtes d'accord avec ça?
Ouais, et au-delà de.
J'aimerais bien avoir le point de vue chroniqueur après, mais.
Au-delà de French, il y a le. Enfin, moi, le morceau avec French Montana, j'aime bien, je me le prends à chaque fois.
Pour toi aussi.
Non, à chaque fois qu'il passe, je me le prends et tout, mais à choisir, je préfère celui avec Lilder.
Ah, ok.
Tu vois,
on fait pas ça. C'est pas la même vibe. C'est pas la même portée, en fait.
C'est là où, tu vois, où je retrouve la crime et l'ambiance. Quinry, Lilder, là-bas, tout ça, tu vois. Ce morceau, je trouve que c'est très chaud.
Mais c'est lui qui en a fait. Enfin, je pense que c'est un des rappeurs qui en a fait le plus avec des Quinry, avec Snoop,
6ix9ine,
Migos.
J'ai l'impression, ouais.
Il en a au moins 6, quoi. Mm. Je crois que c'est le seul qui a tenté le truc, quoi.
Ouais.
D'aller jusqu'au bout, d'aller chercher vraiment ceux avec qui il a envie de le faire, même s'il sait que c'est pas un duo qui match forcément, en fait.
En fait, c'est à votre avis, pourquoi il fait ça?
Je pense que c'est un truc de. C'est comme tu vas te claquer un Rolex, mon frère.
Ouais.
Je crois qu'il se fait plaisir.
Ouais, c'est plaisir, exactement.
Il se fait plaisir parce qu'en vrai, quand tu analyses le. Je crois que c'est un double album là où il y a Snoop Dogg,
c'est
Lacrim, etc. Tu vois, c'est le projet Lacrim.
Le projet Lacrim.
Voilà. Tu vois, je pense pas que ça soit un de ses plus gros projets. Tu vois, pour moi, il est pas top 3 de ses projets. Mais lui, il s'est fait un kiff. Tu vois? Et au final, bah, frère, t'es artiste, t'as grandi en écoutant ces mecs-là. Aujourd'hui, t'as la possibilité de faire un feat avec eux. Fais, tu vois. Peut-être que ça va décevoir une partie de ta fanbase et que les gens ne vont pas accrocher. Mais.
Je pense que les gens, ils attendent plus rien des featuring rappeurs, FR, Quinry. Hein.
Ouais, c'est pour ça que c'était surprenant, le Fresh Montana, qu'il ait une portée jusqu'à aujourd'hui.
Mais pour le coup, le Fresh Montana, c'était vraiment son club. Il a tourné dans les clubs à fond à l'époque. Genre, même encore aujourd'hui, à mon avis, il doit tourner. Je pense que les gens, ils se le prennent. Chroniqueur était un peu perplexe. Je voyais qu'il faisait la moue derrière le...
En fait, c'est pas la dit classique. Quand elle a dit classique Fresh Montana, la prime a dit oh.
Il
a
jeté son masque. Et le refrain.
Non, mais ce morceau.
Tu connais le couple et le refrain.
C'est un des morceaux. Qui a le mieux marché. Mais tout à l'heure, quand j'ai dit c'est parce que je repensais à Olkarir.
Rayquan, ouais.
Voilà. Mais sinon, je suis parfaitement cordat pour dire que c'est une des réussites et Dieu sait qu'elles sont rares.
Là, c'est vrai que Rayquan.
Mais bon, celui-là, c'est un des morceaux réussis aussi.
C'est la même chose. Oh.
Tu dis quoi?
Non, mais c'est pas la même portée, la même chose, c'est sûr.
Oui,
mais
je parle en termes de morceaux vraiment réussis.
De morceaux, oui, mais de la portée.
Et quand tu regardes
la portée, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Preuve en est que les gens, on en a parlé dans une précédente émission, quand tu fais quelque chose, ils aiment bien que tu leur redonnes un peu la même chose, même si tu améliores un petit peu, ouais. Parce que l'album Lacrime, qui est sorti en 2019, je crois que c'est un des albums qui a peut-être le moins peut-être parlé à sa fanbase. Il y avait beaucoup de feats internationaux, et c'est pas forcément ce que les gens attendaient de lui, visiblement. Ouais. Tu vois, donc comme quoi, c'est aussi... Et quand il revient avec Repro 4, les gens, ils sont plus dedans aussi.
Moi, j'ai l'impression que les Repro, c'est vraiment moi qui voit de l'extérieur. J'ai l'impression que les Repro, c'est vraiment les mixtapes qu'il ramène à sa fanbase vraiment proche. Ouais. Il fait vraiment du traditionnel.
Ils ont tous ses platines, hein. Ils ont tous ses platines, dont un double platine. Donc c'est
là où il force le moins.
Non, mais Repro, c'est
Repro 2 et Repro 3, ils étaient chauds de fou. Ouais.
Repro 1 déjà.
Mais Repro 1, moi, le truc, c'est que sur Repro 1, là où c'est à l'époque, je suis peut-être un peu moins d'accord, c'est que on sort de Corleone. Je sais pas si tu captes. On t'a même pas encore digéré Corleone, il s'envoie Repro 1. Et vas-y, c'est dans un truc où tu te dis, putain, on est encore sur le Corleone. Tu
vois, Repro 1, au final, en fait, avec du recul, tu vois, quand je repense à la promo de Repro 1, quand il fait sa Bouska semaine, parce qu'il est en cavale.
La promo. Il pense à la Bouska semaine. Mais pas, c'est lui, il pense à la Bouska semaine. En Algérie, là ? En Algérie, avec tout ça,
parce qu'en fait, t'as vu, quand je repense à Repro 1, déjà, j'entends l'intro des vidéos quand il dit Repro, ça veut dire nanana, R pour nanana, I pour truc. Et en fait, cette promo, elle est incroyable.
Il est
en Algérie, il met en avant SCH, il y a le freestyle dans la chambre d'hôtel, truc, Repro 1, ça sort, c'est une dinguerie. En fait, avec le recul, tu te dis, Repro 1, quand même. Pour moi, c'est le meilleur de tous les Repro.
Ouais, mais en promo, mais en musique.
En musique, c'est...
En musique, t'as des Gustavo Gavira dans... Gustavo Gavira, t'as pas
qu'il arrive
dans
Kaira.
Il arrive comme ça, Kaira, il fait un freestyle. Et même, c'est un artiste, quoi. Regarde bien, c'est que quand il fait le freestyle Gustavo Gavira, je me rappelle, franchement, c'est rare qu'un freestyle m'ait aussi frappé dans le sens où, en vérité, c'est une voiture. Je crois qu'il est en Philippe-Lin à l'époque où il était encore en mode Philippe-Lin de ça. Il arrive, je crois que c'était chemise ouverte, ou enfin veste ouverte, hein. Il rappe, il rappe, il rappe. Mais c'est rare qu'un artiste ait besoin d'aussi peu de choses pour pouvoir débiter quelque chose. Et quand il envoie ce morceau-là, je m'en rappelle très bien que même il me semble qu'à sa maison de disque à l'époque, ils hésitaient entre Gustavo Gavira et un autre titre. Et nous, quand on avait écouté, on a dit, mais en fait, celui-là, il est tout droit. Alors qu'en vrai de vrai, c'est pas vraiment un morceau qui est calibré pour des radios ou je sais pas, mais en fait, c'était l'énergie brute de Lacrime.
C'est ça,
moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il a eu du mal à se renouveler, c'est quand il revient sur ça, c'est là que c'est là qu'il est plus efficace.
En fait, quand ils sont
justement, je trouve que c'est un artiste qui a eu sur la longueur, enfin peut-être qu'on en parlera après, mais je trouve que sur la durée, sur la longueur, je trouve qu'il a eu beaucoup de mal à se renouveler musicalement, dans ce qu'il raconte, dans ses formules. Donc, mais par contre,
on peut en parler maintenant. Hein.
Mais par contre, à chaque fois que ça fait mouche. C'est quand il revient vraiment à la base, c'est-à-dire quand c'est son charisme, son perso, et vas-y, quand il kick, et voilà, terminé, tu vois.
Mais parce
que quand il a tenté certaines choses, des fois...
Est-ce que tu penses qu'on peut lui reprocher ces tentatives?
Non, bien sûr que non.
Non, bien sûr,
c'est pour ça que je disais que moi, au contraire, même quand pour revenir sur Corleone, moi, je trouve que moi qui me le prenais peu au début, et ben, tu vois, c'est là où je l'ai le plus apprécié, parce que c'était mieux produit, parce que c'était mieux calibré, etc. Et là où il y avait des gens qui étaient sceptiques, qui disaient « ouais, on a un peu du père et tout », bah moi, le fait qu'il essaye de faire quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, accessible, populaire, en vrai, c'était surtout les prods ouais. tu vois, qui différait. On va pas se mentir, sinon lui. Bon,
ouais. Et même la structure des titres aussi, tu sais, la capacité à mieux faire ses pré-refs, de faire ses refrains.
Ouais, c'était plus calibré.
Il y avait aussi une influence Rick Ross, du coup, on en parlait tout à l'heure aussi. Chris, c'était mieux calibré, ouais, clairement. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était un peu artisanal, on va dire.
Ouais, c'était pas beaucoup plus.
Il y avait quelque chose, mais il fallait optimiser le tout. Mais là, pour rebondir sur ce que dit Chroniqueur, c'est vrai que c'est un des artistes qui, mine de rien, a tenté beaucoup de choses artistiquement, mais finalement, là où il est le plus à l'aise, moi, je pense que c'est, même avec le dernier projet qu'il a sorti, moi, je pense que, clairement, c'est quand il est un peu dans ce rap brut, là, il est revenu sur des projets où, avec Redal Egyptien, notamment avec Mister Yutsa, la trilogie qu'il a faite, qui lui convient. C'est peut-être pas ouvert musicalement, mais c'est du rap, et même, je trouve même, c'est bizarre, hein, mais c'est pas étonnant, en vérité, qu'il rappe peut-être mieux qu'avant, que quand il a commencé.
Ouais, bah oui,
tu vois ce que l'on parle là.
Ce qu'il maîtrise plus.
Il maîtrise plus, c'était
l'authenticité, et là, c'est la technique.
Et moi, je pense qu'il a pris de la bouteille à force de rapper, de plus en plus de freestyle, et même de plus en plus de studios, tu vois. Et je trouve que, comme ils ont structuré la chose, je trouve que le dernier projet, il est bien produit, ça lui correspond bien, il y a des ouvertures musicales, mais finalement, il y a sa grosse base, son squelette, en fait.
Ouais.
Du lacrime, qui parle de vécu, qui est en mode Kaira un peu, niveau image.
Bah, là, tu parles du dernier, là
ouais. Ah, okay, ouais. Ouais, je parle du dernier.
On sent que lacrime, en fait, il a souvent essayé de s'ouvrir, mais j'ai plutôt l'impression que c'est son public qui le ramène à ça. Est-ce qu'à un moment donné, c'est lui qui est pas assez bon.
Le rap de rue, c'est compliqué en métier.
Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas lui qui est pas assez bon dans ce qu'il fait quand il sort du rap street? Ou alors est-ce que c'est son public qui est trop fermé d'esprit?
Oui, parce qu'on reproche toujours aux artistes justement qui sont.
Trop fermés, etc.
Non. En fait, tous ceux qui sont les artistes hyper street, hyper. Tu sais, qui sont dans leur image tout de suite super brute, tout ça, dès qu'ils s'ouvrent un peu, qu'ils mettent un peu d'autotune ou qu'ils rentrent dans la mélo. Ça déstabilise. Ça veut pas dire qu'ils sont pas forts, c'est juste que c'est notre manière, notre approche, notre manière d'écouter. Moi, j'aime beaucoup J'ai Mal, qui est un peu plus autotuné, un peu plus mélodieux. Grande Armée, il est incroyable ce morceau, pourtant il est un peu plus mélodieux. Tu vois, enfin, même si ça reste du rap, mais il tentait une autre approche, parce que même si effectivement, en termes de texte et de fond, on revenait peut-être au même thème, mais il le faisait d'une autre forme, en fait, d'une autre manière. Et pour moi, ça fonctionnait de ouf. Mmh. C'est juste que je pense que des fois, il y a une sensibilité pour chacun. Dès qu'il y a une mélo, c'est soit on ne touche pas la sensibilité de la mélo, soit on ne l'est pas, tu vois. Mmh. Et c'est pas parce que c'est la crime qui ne sait pas faire bien la mélo ou parce que ça ne le correspond pas. Je pense que ça lui correspond de ouf.
J'ai l'impression que, tu vois, un artiste comme Ninho, par exemple, quand il va sur ce genre de terrain-là, le public est beaucoup plus ouvert. Est-ce qu'à un moment donné...
Ouais, parce qu'il a toujours habitué.
D'accord.
En fait, il a toujours habitué. Et la crime, il a été dans un moment, pendant longtemps, très brut.
Très punchline, ouais.
Très punchline. Et voilà, même dans les prods, dans les productions, voilà, très, très, très dur. Et vu qu'il passe à proposer quelque chose d'autre et qu'il n'y a pas eu forcément une transition, et bah du coup, les gens sont un peu déstabilisés, tu vois.
Ouais.
Mais ça, c'est parce que c'est nous.
On n'est pas habitués, en fait.
Voilà, on n'est pas habitués, tu vois. Mais franchement, il y a plein de titres autotunés, mélodieux et tout, que la crime fait, que je trouve incroyable, tu vois.
Mais moi, je me rappelle, Céline, en fait, moi, je me rappelle que très tôt, il a eu des mélodies, la crime. Même sur le projet Toujours le même.
Mais c'est pas ça qui a marqué.
En fait, c'est pas ça qui a marqué, c'est vrai. Mais en fait, les mélodies de la crime n'ont jamais marqué, mais c'est pas ça le but, en fait.
Non, mais après, il en a fait plus avec le temps, du coup.
Oui, il en a fait plus avec
et
le temps.
Et c'est là que ça a choqué un peu les gens.
Exactement.
Il en faisait effectivement avant.
Mais c'est pas ce qu'on retient, en fait.
Voilà, c'était pas autant. Même lui, c'est pas forcément ce qu'il voulait plus mettre en avant. Tu vois, il allait pas clipper ça, par exemple.
Oui, il allait pas clipper ça.
Alors qu'après, il a une transition où en mode je m'en ouf, je clipe ce que je veux et si c'est mélodieux.
Parce qu'après, après, je pense aussi qu'il y avait la volonté peut-être de s'ouvrir à un autre public et que, comme disait Céline, moi je sais pas si c'est. Je vais pas dire que ça lui correspond pas, mais c'est pas là où forcément il est le meilleur et là forcément où on l'apprécie. Ça aussi. Tu parlais de Ninho tout à l'heure, mais Ninho, bien sûr, il a eu la mélodie et Lacrim aussi, il a eu de la mélodie, mais c'est pas la même chose qu'on attend.
Pas autant que Ninho, tu vois. Ninho, c'était dès le départ.
Oui, bien sûr, mais c'est pas le même cadre, pour te dire, c'est pas le même timbre de voix aussi.
Oui, c'est pas la même chose.
Moi, je pense qu'il y a une question de cohérence aussi. Lacrim, il va te faire un texte un peu plus mélodieux, un peu plus, on va dire, mielleux ou sur certains thèmes, ça va marcher, les gens vont se le prendre, mais peut-être que si tu donnes à un autre artiste, ça va passer encore plus un cap. En fait, c'est des fois tes forces, c'est aussi tes faiblesses.
Est-ce que c'est pas juste une question aussi de voix? Tu passes d'une voix rock à...
C'est ça, c'est
après, la crime, c'est pour ça qu'il y en a plein, c'est soit ils aiment, soit ils aiment pas. C'est pour beaucoup la crime, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, tu vois. Parce que la voix, truc, ils arrivent pas. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup, c'est tout ou rien.
En plus, il a influencé beaucoup d'artistes.
Ah bah, tu me fais la transition, du coup, en termes d'influence.
Moi, je pense qu'il a influencé des artistes comme Koffs, comme Sosomanes, comme SCH aussi, qui l'avait à un moment donné, il a travaillé
avec lui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Sosomanes, par exemple?
Sosomanes, je pense que c'est dans l'univers du storytelling. Parce que Lacrim aussi, très tôt, il a fait des séries. Faut pas oublier, je crois qu'il y avait des séries Force et Honneur. Je pense que aussi, comme Sosomanes aussi était dans un peu de cet univers-là, peut-être dans sa vie du dehors.
Ouais, il avait un style de vie un peu similaire avant le rap.
Donc il y a un phénomène d'identification. Pareil pour Koff, tu vois. Et en plus, pendant longtemps, Lacrim, il était, enfin pour un petit moment, je crois, c'est à l'époque de Luca Brasi, je crois qu'il a même travaillé avec 13e Art, il était dans le Sud.
Ouais.
Donc oui, forcément, il y a eu une influence. Et comme il dit, aussi Nico, le côté DZ, ça fait que. Tu vois, donc moi, je pense qu'il a influencé. Et on le remet pas forcément, on le met pas forcément très en avant. Après, peut-être qu'il faut plus d'années de recul. Mais il a influencé même des Ouais Renoir. Je pense qu'il a été influencé par un Lacrim.
Vous en pensez quoi?
Il y a un artiste qui s'en est jamais caché, en vrai, c'est Maes. Hein. Il a toujours dit que Lacrim, c'était une inspiration. Et en fait, quand tu vois le début de carrière de Maes, sa façon de rapper, tu vois, ça rejoint ce que Céline disait. Il a vite jonglé entre les deux trucs, tu vois, qui était de la mélo où il te racontait des choses quand même sombres dans l'idée, mais il te le chantait, tu vois. Ouais. Et direct, il nous a habitués à quelque chose. Et à côté, tu voyais ses freestyles au KLM où il gueulait de fou, il criait de fou. Et ça faisait très Lacrim à l'époque où quand il arrive, il rappe, tu vois. Il l'a dit dans pas mal d'interviews. En vrai, Lacrim, c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté et ça se ressent en vrai dans sa musique, tu vois.
Du coup, ça m'avait pensé direct à Billet Vert quand il arrive torse nu avec
chemise Versace. Ouais. Tu vois, c'est très Lacrim, mais en vrai, ça se voit.
C'est vrai, même dans la dégaine, des fois.
Ouais. Ouais,
toi, tu en penses quoi au niveau de l'influence?
Je suis d'accord avec Kersh sur les artistes qu'il a cités. Oui, tu peux sentir une influence. Et je dirais même plus que par rapport à Soso. Je pense que oui, peut-être qu'il a dû aussi l'influencer dans comment jongler avec son vécu et sa musique et faire une espèce de packaging aussi avec ça. Et même quand tu vas proposer quelque chose d'un peu plus léger dans la forme, que dans le fond, ça soit toujours des terres, tu vois.
Mais justement, un artiste comme Lacrim, qui a en plus ce côté très businessman, entre la série, même ce qu'il a fait pendant le confinement avec les t-shirts, etc.
Ouais.
Plata au plomo, etc. Ouais. Bon. Pourquoi il a, à votre avis, pourquoi un artiste comme ça, qui a le sens du business, qui a l'air aussi de comprendre les artistes avec lesquels il travaille, pourquoi, à votre avis, il a pas eu encore de gros succès avec un artiste qu'il a produit?
Le temps, je pense.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et au produire, c'est autre chose, parce qu'il y avait déjà...
Il racontait avoir eu, bon, on le sait tous, hein, mais une déception avec SCH.
C'était chez vous, ça?
C'était pas sa table, ouais.
Ouais, je crois que c'est chez vous, expliqué. Et ça l'avait un peu dégoûté, je crois, d'avoir produit.
Ouais, en fait...
De produire, en général.
Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'à l'époque, il bossait avec SCH, il avait contribué fortement à sa mise en avant, etc., et qu'à la fin, en fait, sur les papiers, il ne s'y retrouvait pas et qu'en gros, il n'a pas pu aller au bout comme il aurait aimé aller au bout avec SCH.
Il ne s'y retrouvait pas, c'est-à-dire
Contractuellement, je pense qu'à un moment donné...
C'est SCH qui décide de partir, enfin,
qui bosse avec une équipe où Lacrim n'est pas intégré. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Hein.
D'accord, OK.
C'est ce que je capte. Après, bon... Il le dit en restant de manière assez floue, tu vois. Donc, en gros, moi,
on n'est pas dans les papiers, on ne peut pas savoir.
Je pense que c'était lui qui voulait chapeauter un peu le truc et que SCH, à côté, finalement, il a commencé à structurer une équipe, machin. Et peut-être que Lacrim, il n'avait plus trop la
main. Le leadership, quoi.
Ouais, c'est ça. Et après, comme on ne sait pas forcément exactement ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il était resté vague, c'est toujours ça, tu vois, sur eux ou sur d'autres, l'équilibre entre peut-être la loyauté et la reconnaissance que tu dois à quelqu'un qui t'a mis en avant mmh. et l'émancipation dont tu veux faire preuve et t'as envie de faire tester tes trucs. C'est un peu.
Toi, tu fais déjà.
Des transitions pour d'autres sujets.
Pour d'autres sujets, là. C'est bien, ça.
Oh, garde tu veux mettre.
Ce que t'as dit là, c'est bien.
Tiens, je sais pas, regarde, les points, comment on fait, du
après,
coup.
Après, ah, c'est Chris, pas ça. Après, je pense que.
C'est toi mon fil conducteur depuis tout à l'heure.
Oh merde, Chris, on est ensemble, c'est très bien.
Chris, je pense de manière. Et de manière générale, je pense que c'est aussi un manque de temps en vrai pour s'occuper de ses artistes, tu vois.
Ouais, mais il le voulait, non il était, il
je pense
là-dedans.
qu'il a
mentoré pas mal d'artistes.
Je pense qu'il a tenté, etc. Mais après, de ce qu'on voit de la vie de la crime, c'est qu'il est souvent à Dubaï, il est rarement en France, etc. Et je pense que c'est aussi important pour un artiste d'être accompagné, pas au quotidien, mais d'être présent.
Si, presque.
Ouais, presque au quotidien.
C'est un charbon. Hein.
Ouais, ouais. Voilà, tu vois. Et aujourd'hui, t'as la chance de signer dans l'équipe de la crime, mais t'as pas la chance de l'avoir au quotidien avec toi.
Ouais.
C'est compliqué, tu vois, ouais. C'est compliqué. Donc je pense qu'il y a aussi du temps ouais. et de l'organisation qui fait qu'aujourd'hui ça lui permet pas de développer à 100%, sachant qu'il a sa carrière à côté, tu vois.
Ouais. Est-ce que en réalité, et ça s'applique pas seulement à la crime, mais est-ce qu'un artiste qui est encore actif dans sa carrière peut produire d'autres artistes ? C'est ça la question finalement.
Bah, en tout cas, dans le rap français.
En vrai, le seul qui a réussi.
Booba,
il y a Fianso.
Il y a Fianso aussi.
Fianso aussi, ouais.
Comme ça, c'est.
Bah là, actuellement, c'est Nino aussi, tu vois, qui partage beaucoup ses artistes.
Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas encore un succès réel. Ça se développe, ouais. C'est cool, tout ça.
Vrai,
mais après, il y a le morceau avec Golo aussi.
Qui a bien
tourné. Je ne suis pas sûr qu'il produise Golo. Il me semble que c'est de la copro. Il me semble. Donc, il ne le produit pas.
Ouais, mais après, aujourd'hui, on ne peut pas parler encore de réussite. De Nino, en termes de Nino
en termes de producteur. Oui. Après, c'est dur, c'est un autre métier, comme tu dis, il faut de la présence.
Mais c'est ça, c'est,
après, est-ce
c'est
que
un autre métier.
Est-ce que tu es producteur, tu mets l'argent, ou est-ce que tu es producteur aussi, tu vas en studio, tu mets l'argent et tu vas en studio avec l'artiste. Est-ce que l'artiste, il est un manager est-ce que,
non, voilà, entre savoir détecter quelqu'un qui a du potentiel, savoir détecter une pépite et derrière savoir le développer, c'est deux
métiers. Et savoir le garder, c'est autre chose, parce que tu connais aussi. Tu sais très bien, une fois que. Toi, quand ils sont pas forcément identifiés, certains artistes, ils sont, je dirais, à l'écoute, ils sont concentrés. Une fois qu'il y a le premier Roro, le deuxième Roro, finalement, en vrai, je crois que ça commence à faire des entourloupes.
On va avoir confiance. Même s'il n'a peut-être pas encore eu un artiste qui a vraiment explosé, il a été quand même l'initiative de pas mal de tendances à des moments comme à un moment donné, il y a tout le monde qui fitait avec les Italiens. Ouais. Il y a eu un moment où tout le monde était amoureux des Italiens, il faisait des connexions tout le temps. Et en fait, c'est lui aussi, c'est un des premiers qui a fait des connexions avec des Italiens.
Il est
avant-garde de ouf, tu vois. Et après, tout le monde a fait plein de feats avec des Italiens, tu vois. Mais en vrai, les premiers feats, c'est lui aussi qui a fait ses premiers feats.
Elle promet, c'est pas SCH sur Cartier Cartier, là.
Bah, il avait déjà fait avec Esfera et Basta, il l'avait déjà fait aussi.
En tout cas, la crime, je crois que c'était un des premiers qui a tourné en Italie, un des premiers rappeurs qui a tourné en Italie.
Mais ce qui fonctionne aussi avec la crime, c'est que j'allais te poser la question. Pourquoi, mais finalement, je pense que c'est le vécu, la rue. Et ça, c'est un truc qui est compris, on va dire, par tout le monde dans tous les pays. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Mais là, du coup, je voulais revenir sur le côté business, producteur, etc. Là, finalement, il va arriver à 10 ans. Ça va faire 10 ans, là, de carrière.
Plus, ouais.
Même plus. Oui, ouais. Mais,
on se comprend, 10-15 ans.
Ouais. Voilà. Ouais. Là, on va se dire, est-ce que vous pensez qu'un artiste comme ça peut encore, en termes de longévité, en termes de carrière en tant que rappeur, est-ce que vous pensez qu'il a encore des choses à faire? Ou est-ce qu'il ne devrait pas justement plus se concentrer sur la partie production, business, comme il le fait, plutôt que de rester en tant qu'artiste comme ça?
Franchement, non. Moi, je pense que j'attends encore plein de choses de lui, en vrai. Je pense qu'il a eu son Graal, entre guillemets, avec Force et Honneur. Triple dit de platine. Ensuite, il y a eu La Crime, un gros projet, et après, il y a eu ce dernier projet aussi. Mais c'est vrai que ça a stagné un petit peu vers la fin, même si pour moi, La Crime, il y en a plein, enfin, le projet La Crime, il y en a plein qui sont passés à côté, parce que pour moi, il y a des gros titres, comme Granada, par exemple. Pour moi, c'est un des meilleurs titres de La Crime, mais vraiment. Et je pense que malheureusement, il y en a plein qui sont passés à côté de ce projet. Le dernier projet aussi, tu vois,
Personne
mais ça n'a pas été autant.
Pensé quoi
comment
Personne en gratta, t'en as pensé quoi
C'était un bon projet aussi, mais je me le suis pas prise autant que La Crime ou les projets précédents.
D'accord.
Donc je pense que
pourquoi
je sais pas. Peut-être que je vais le réécouter et que peut-être que c'est des moments, c'est des périodes aussi.
Mais pourquoi j'ai des périodes. Là tout de suite.
Non, j'ai pas
dis
forcément une explication. Non, franchement, j'ai pas. C'est un bon projet, mais.
Moi, je suis sûre qu'elle veut dire les termes, j'essaie juste de creuser.
Non, franchement, c'est un bon projet. Mais il est pas. Enfin, je veux dire, j'ai. Granada, c'est un des titres que j'affectionne beaucoup. Et j'ai pas retrouvé un titre comme ça sur ce dernier projet-là.
Et pas de Patricia aussi sur le la crème morfacée de Patricia, il me semble.
Il me semble aussi. Moi, Granada, pour moi, c'est un Graal. Enfin, c'est genre dans mon top 3 de la crème, vraiment. Donc pour moi, là, sur ce dernier projet, c'est un très bon projet, mais j'ai pas ce...
T'as pas aimé Redal Égyptien, tout ça?
Moi, franchement, je trouve que Redal Égyptien... La trilogie, elle est lourde de fou. Et en fait, je pensais même pas que c'était encore possible que ça puisse être aussi bien fait, en fait, tu vois. Et je pense qu'il fallait un mec un peu comme ça à l'ancienne pour qu'il le fasse bien, tu vois. Mais moi, ça m'a replongé en 2008.
Le pire, c'est que ça révolutionne rien. Parce que ça
À fond.
Mais le fait que quelqu'un de sa stature... si prêt te le fasse aussi bien, quand il arrive, ça faisait plaisir de ouf.
Et comme je sais pas, beaucoup de artistes qui ont fait ce type de trilogie-là aussi.
Ben c'est ça.
Il faut bien le faire. Moi, je pense qu'il faut avoir du fond et il faut savoir aussi amener les choses, même visuellement aussi, tu vois. Les discussions, les interludes, comment elles sont faites. En fait, il faut
avoir le vrai vécu.
Il faut maîtriser son sujet.
Qui te permet de pouvoir raconter quelque chose comme ça. C'est ça qui rend le truc.
Au début, il y avait quand même cette idée aussi, quand il arrive au tout début, ouais, mais vas-y, c'est un mytho, ouais, mais si, ouais, mais ça. Et finalement, avec les années, tu te rends compte que. Bah, si c'était un mytho, on l'aurait su depuis. Non, mais on l'aurait su depuis. Et même, en fait, il y a beaucoup trop. Parfois, après, il y a des artistes aussi qui ont cette capacité d'avoir d'être des éponges. Je pense qu'ils parlent de choses trop précises pour que ça soit inventé. Il y avait aussi à l'époque.
Et puis, il a été en cavale et ça a été le marketing. Ouais, ça a servi pour faire du marketing. Donc, non, mais là, je crois qu'il n'y a rien de plus réel.
C'est vrai. Même à l'époque, il disait, ouais, je crois que c'est il y a 17 ans, j'ai raté le million. Les gens,
je comptais le million à 17 ans. Voilà.
Genre, lui, a mis à 17 ans.
Donc, c'est un truc de carré aussi. Peut-être qu'il a peut-être un peu forcé.
Mais c'est ça qu'on veut.
En vérité, c'était 500 000, mais s'il a arrondi un million, moi ça me va. Ça rime bien.
Et en vrai, oui et non, parce que d'un côté, je me dis quoi, des mecs comme lui, en fait, il y en a plein dans les cités. Des mecs à 16, 17 ans, ils sont déjà sur des trucs. 15, 16, 17 ans, ils sont déjà sur des trucs. Je dis pas que c'est bien, mais je te dis que c'est une réalité.
C'est le constat.
Mais c'est la vérité. Ils sont sur des bijouteries, ils sont sur des cutteries.
Mais je dis pas que c'est. Non, parce qu'on va commencer à dire, oh, toi aussi, t'en gênes la jeunesse, tes petits frères. Non, j'ai pas dit ça.
Mais
il faut rappeler qu'il a fait de la prison pour ça.
Non, mais tu vois ce que il a payé.
Après, de toute façon, il n'y a même pas besoin de savoir si tel truc qu'il a dit c'est vrai ou tel truc, est-ce qu'il a extrapolé ou est-ce que machin. Quoi qu'il arrive, c'est déjà suffisant.
C'est l'entertainment après.
Voilà, exactement.
J'ai dit tout à l'heure, l'entertainment.
Après, c'est les gens qui veulent gratter, après, c'est les bandeurs, là. C'est pas grave. Tu vois.
Ouais. Mais la particularité, justement, de la carrière de la crime, c'est ça, justement, c'est d'avoir fait de cette vie un peu tout ce côté marketing autour de lui. Et c'est sa référence à lui. Enfin, un peu comme Mysterio aussi, tu vois, qu'ils ont créé un peu leur carrière autour de leur vie de bandit. Et ils ont donc joué avec ça. Ils ont réussi à faire tout leur marketing, toute leur com autour de ça. Et ça fonctionne. Sortir des albums en prison, même que ce soit des feats, des albums ou juste des morceaux alors que t'es en prison et les promotionner quand même. Genre,
c'est ça
qui était ouf.
Mais la crime, la différence avec d'autres qui ont fait ça à petite échelle ou à grosse échelle, c'est que lui, en plus de ça, c'était tout de suite en mode grandiose.
Ouais.
C'était genre tout de
suite. Libérer la crime.
C'était pas en mode petit con.
Libérer la crime, c'était.
C'était pas en mode petit con, quoi. C'était en mode Corleone direct.
Free la crime.
Alors tu peux trouver ça exagéré.
Non, moi je kiffe.
Mais je pense que c'est pour ça que tu dis qu'il y a un aspect très quinri, tu vois.
En fait, il le fait bien.
Il le fait à fond, il le fait bien.
Vas-y, qui a pris 6 mois
pour le libérer.
Mais ouais, c'est ça, tu veux le libérer, gros.
Il sort de prison, il poste la photo Papa est de retour avec Bouteflika et tu vois, des grands de ce monde.
Mais au-delà du storytelling et de est-ce que c'est
après,
vrai...
Après, j'aimerais revenir sur la longévité.
Au-delà du storytelling, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que je ne sais pas si tu allais en parler. Il y avait aussi une période, je crois que c'était pendant le Covid, où les gens n'avaient pas forcément suivi...
côté hustler un peu du gars.
Quand ils mettaient les billets
Non, pas le côté hustler, mais quand... en fait, ils faisaient du placement de produits à l'époque.
Tu fumes, tout ça.
Exactement. C'était un petit peu avant. Et les gens disaient, ouais, mais...
C'était pas mystérieux.
Non, c'était la crime. Les gens ils disaient, ouais, pourquoi tu fais du placement de produits, etc., etc., etc. Et je me rappelle, il avait fait une vidéo, ça m'a fait gonnerie. Il était en mode, moi, personne m'a donné de l'argent quand je dormais dehors, nanana. Moi, je crache pas sur 500 euros, je prends mon argent, nanana. Donc en fait, il a ce qu'on est très. Un euro, c'est un euro. Mais... Le business, vas-y, y a pas de honte en fait. Y a pas de honte. Je rappe peut-être la rue, mais si j'ai moins de me faire un yébi, je vais me faire mon yébi.
Moi,
je le fais honnêtement et voilà.
Mais je suis totalement d'accord avec ça. Et j'ai l'impression la crime, bon là, on parle beaucoup des crimes, on parle de la crime, donc il y a beaucoup de liens. C'est vraiment le rap, c'est un moyen de se débrouiller pour lui.
Bien sûr.
C'est comme ça qu'il le voit. Donc quand le Covid arrive et que tout est bloqué, il faut qu'il trouve un autre moyen de se débrouiller.
Ah, c'est ce qu'il en fait, c'est ce qu'il explique dans le pass à table dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qu'il explique, tu vois, parce qu'en gros, les fans qui étaient autour, ils lui posent la question, et en gros, parce que c'est un peu un reproche que son public lui a fait, comme il disait Kersh, de faire des placements de produits très influenceurs, tu vois. Et lui, ce qu'il explique, c'est que la musique, elle est à l'arrêt. Moi, t'as vu, j'ai des choses à payer, j'ai un train de vie à tenir, etc. L'argent, c'est l'argent. Je le fais, tu vois. Donc, est-ce que j'ai bien fait de le faire avec du recul? Je sais pas, peut-être pas. Mais en tout cas, à l'instant T où je le fais, ça me fait rentrer de l'argent et c'est bon, tu vois. Donc, en fait, le mec, il garde juste son état d'esprit de débrouillard à un moment donné, tu vois. Il a un train de vie. Même si aujourd'hui, on se dit, ouais, bah, il a généré beaucoup d'argent, mais il faut maintenir ce train de vie. Le Covid, tu sais pas combien de temps ça va durer. Tant que tu peux faire rentrer de l'argent, fais rentrer, tu vois. Donc,
Et pour rebondir sur ce que dit Nico, il a pas les mêmes codes que les rappeurs. Que la plupart des rappeurs. Parce que comme, comme on disait tout à l'heure, c'est un gars du dehors qui fait du rap, il a pas ce truc il a peu ce truc du « quand dira-t-on », je pense aussi.
Ouais, ouais.
Alors, il est « moi, je prends ma pièce,
ouais, là, me rendez pas fou. » Ouais.
« Moi, je prends ma pièce, me rendez pas fou. Ouais. » Même à l'époque, aussi, il y avait eu la polémique. Quand je crois qu'il portait beaucoup de Philippe Lein, je crois qu'il devait faire une connexion avec Philippe Lein, ça s'était pas passé. Il avait insulté sur les réseaux. C'est ce côté
spontané, tu vois.
Même les billets de 500, c'était des billets de 500, je crois qu'il avait mis dans le dernier album, la précommande, je crois.
200,
ouais. Tu vois, il mettait des billets, c'est pareil, ça avait fait polémique. Est-ce que les gens, ils achètent ta musique, enfin ton projet pour la musique ou juste pour avoir de l'argent? Tu payes 10 euros, tu récupères 100 euros. Tu vois, c'est... Il est toujours dans ce truc de débrouillard, magouilleur, mais frère, c'est la vie.
En fait, c'est un artiste, mais que je ne mets pas forcément dans la même case que les autres artistes parce que je le vois un peu en marge. C'est pour ça que je rebondis. Il prend son argent, il fait ce qu'il a à faire. Quand il faut rentrer en studio, il est là. Sinon, merci, au revoir. Tu ne vas pas le voir dans tous les studios à parler sur un tel. Tu sais,
moi, je pense qu'il est vraiment en train de vendre un produit. J'ai eu un vécu.
Comment je le market?
Voilà, il faut que je le market. Comment je peux le marketer? Voilà ce qui leur plaît. Je leur donne ce qu'ils ont à prendre, ce qu'ils veulent prendre, et ensuite c'est parti. Mais maintenant, du coup, est-ce que ce genre d'artiste a vocation à faire encore 10 ans de carrière comme ça?
Moi, je pense pas.
Est-ce que, genre, à partir d'aujourd'hui, il lui reste 10 ans encore? C'est ça la question?
Je repose la question.
Déjà, il a dit qu'il ferait plus de repro.
Ok, d'accord.
Ouais, c'est ça, c'est horrible.
C'est dur.
C'est réellement vrai. Je connais les artistes. Quand ils disent un truc, en général, les artistes reviennent dessus. Donc espérons que.
Ouais.
Mais après, je préfère que s'ils ne le sentent plus, qu'ils ne le fassent pas parce que le public réclame un réponse. Ouais. Tu vois, parce que ça va faire comme Or Noir partie 3, où on attendait, au final, tu vois, c'est.
Après, si tu me dis 10 ans sortir des singles par-ci par-là, c'est pas impossible. Mais sortir des projets, je parle dans 10 ans, est-ce qu'il va sortir encore projet? Moi, je pense pas. Et je pense pas qu'il soit dans l'optique de. Comme c'est pas un artiste qui est né dedans, il était là, rappé, caca, sur les fans. Il était pas dans ça, on va pas se mentir, il était sur autre chose. Tu vois, donc ça veut dire que je pense qu'il a pas un amour passionnel pour le truc.
Il aime cette culture.
Il aime la culture, mais je ne suis pas sûr que tu vas forcer, parce qu'il y a des forceurs aussi.
Ouais.
Tu vois, il y a des gens qui... quand ça devient économique, moi, je pense que, comme tu dis, la vision un peu business. Tu vois, et en plus, je pense que le rap de rue, à un moment donné, même si on n'est pas aux États-Unis, ça vieillit un petit peu mal.
Ouais.
Tu vois, même peut-être dans ta vie personnelle, je pense que tu as des enfants après, donc est-ce que tu devrais encore rapper ci, rapper ça? C'est plus les mêmes choses que tu vis. Donc c'est un peu compliqué parfois, le rap de rue, moi, je pense, les années. Hein,
ouais. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il a encore 10 ans devant lui en tant que rappeur?
Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais trouvé qu'il avait beaucoup de potentiel pour savoir se renouveler.
Ouais.
Donc là, déjà, au bout de tant d'années de carrière, et en plus de ça, je rejoins aussi ce que disait Kersh, je ne pense pas que ce soit non plus un passionné de Peura à se dire vas-y, qu'est-ce qui se fait maintenant? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Il ne va pas se poser ce genre de questions pour être capable de reproposer de la fraîcheur ou quoi. Je pense qu'il n'en a rien à foutre. Ces gens-là, il a toujours fait son truc, il a su bien s'entourer. Il avait sa marque de fabrique. À chaque fois qu'il déraillait un peu, il revenait à la base de ce qu'il savait faire de mieux et il remettait une pièce dans la machine pour son public de départ. Je pense que là, ça y est. À mon avis, il va trouver moyen de faire son osé autrement, tout en restant un peu dans l'industrie. Mais je le vois pas continuer comme ça 10 ans, jamais.
Okay.
Jamais.
Combien?
Moi, en vrai, je rejoins Kersh et Chroniqueur. Je vais pas me répéter là-dessus. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser et qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Lacrim aujourd'hui est au rang de légende du rap français?
Ah, ça c'est une très bonne question. Je l'avais pas, j'avoue. J'aurais bien aimé l'avoir.
Réponds-nous, dis-nous ce que t'en penses.
Moi, je pense que c'est devenu une icône. C'est-à-dire, en fait, un rappeur comme ça, dans les années 2000, n'aurait pas pu exister. Parce qu'en fait, il est trop ostentatoire. Et quand tu arrives avec quelque chose et que tu es aussi transgressif, et en plus de ça que tu rencontres le succès et que tu as une longévité de 10 ans, pour moi, tu peux être mis au niveau d'icône au moins, tu vois. Maintenant, je pense qu'un artiste comme ça, dans l'ADN, devrait être très bon businessman pour vraiment confirmer dans le personnage qui se crée. Parce que moi, en fait, quand j'écoute un Lacrim, je me dis, Lacrim, il le fait pourquoi ? Il le fait pour faire des sous. C'est comme, à l'époque, j'écoute Jay-Z, il arrive en 2004, il sort Black Album, il dit, j'arrête le rap, il devient producteur. En fait, Lacrim, pour confirmer dans ce qu'il est, il doit sortir des artistes, ou du moins, si ce n'est pas dans la musique, il doit faire quelque chose qui fait que visuellement parlant, ça reste ce gars.
Le cinéma,
ah ouais,
peut-être.
C'est réel. Le cinéma, peut-être moi, le je prends grave bien là-dedans.
Peut-être le cinéma, donc, tu vois, c'est quelque chose qu'il n'a pas, pas forcément bien développé. Mais ouais.
Moi, je pense qu'il peut grave aller là-dedans.
Moi, sur le côté légende, je ne pense pas, mais je rejoins Chris. Ouais. Je trouve que son point de vue, il a raison. C'est dans les années à venir, je pense qu'il a un rôle à jouer. Ouais. Mais je pense que, peut-être pas une légende du rap français, mais il n'y en aura pas deux, Lacrim.
Ouais.
Franchement, il n'y en aura pas deux. En fait, c'est enfin, ça, peut-être
que. Quand même.
Ah mais légende, mais
en fait, comprendre.
Mais non, ne montons pas. D'où Lacrim part. C'est pas un rap, c'est pas un rappeur, c'est pas un artiste.
Ouais, mais après peu importe d'où il part. Oui, mais l'important c'est l'arrivée.
Oui, mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est
le marathon au final, c'est quoi ?
En fait, ouais, mais oui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que lui, je pense que quand il fait sa carrière, tout ce qu'il a sorti, il est déjà dans l'idée de c'est du bonus.
Mais ça, c'est lui. Moi,
quand j'analyse, légende, c'est un terme, je pense. Trop fort et c'est encore la longévité.
En vrai,
parce que j'ai envie de te dire, si tu mets. En fait, les gens, par exemple, tu vas dire IAM.
Ouais, c'est ça.
Les gens du rap français.
Je crois que je capte.
Tu vois,
en fait, c'est une
référence. Une
référence,
bien sûr. Mais on n'a pas dit que c'était pas une référence.
On a dit
que
c'était un icône. En fait, il faut qu'on définisse le terme légende. Si on part sur légende. Parce que je crois pas qu'on se mette d'accord. Je crois pas qu'on est d'accord. En fait, quand on dit légende.
On fait partie des têtes d'affiche du rap français, point barre.
Mais plus que ça, moi, je pense
que
Mais
ça restera dans le temps. Ça veut dire que.
Oui, mais il y a une subtilité entre légende et tête d'affiche.
Il a duré tellement longtemps, quand même. Enfin, là, il a toujours pas fini. On a l'impression qu'on parle de lui comme s'il avait arrêté le rap, mais pas encore. Mais là, il a quand même une très longue carrière, ce qui fait que
obligatoirement
très bien. Dans ce rôle de okay. légende.
Ça y est, c'est bon, elle m'a réveillé.
Vas-y.
Très bien.
Car je te laisse les termes. Le boulevard.
Donc, c'est-à-dire que si tu me dis Lacrim en légende du rap français, alors que moi je kiffe, hein, mais dans ce cas-là, tu mets Damso, tu mets Nekfeu, tu mets Jul, t'en mets plein aussi.
Bah, j'ai pas dit que je les mettais pas.
Oui, mais ce que tu vois pas,
parce qu'en fait, il y a beaucoup de
légendes. C'est ça. Légende, en fait, c'est un statut que très peu peuvent atteindre. C'est une référence.
C'est une référence. À partir du moment où tu deviens une référence dans le rap français, tu deviens une légende.
Non,
tu parleras jamais de la crème à mes
enfants.
Tu parleras jamais de la crème à mes
enfants. Je dis jamais pas de la crème à mes enfants.
Je
dis banditisme.
Tu peux pas parler de la crème. Je veux dire, la crème, tu peux pas parler de la crème sans parler de tout ce qu'on a parlé d'influence. Tu vois, on a pas parlé de Philippe Plein, mais en vrai, c'est une dinguerie. Non mais c'est une dinguerie.
C'est une dinguerie parce qu'à
un moment donné, c'est quand même un mec.
Plein, à l'époque où ça s'est passé.
Ouais, à l'époque
tout le monde voulait mettre.
Mais moi je suis allé.
Même moi je voulais mettre Philippe Plein.
Pour te dire, j'étais à New York, j'étais dans le magasin Philippe Plein. Tu vois ce que je veux dire ?
Si j'y vais,
mais c'est par rapport à la crime, parce que c'est quelque chose.
Mais t'as pas vu un gars qui avait dit ouais dans un, je crois que c'était avec Street Press ça, il avait fait un truc, il avait fait
un icône.
Il avait dit ouais, je suis allé au placard à cause de la crime.
C'est la
matière des gens. La crème, la tête d'homme que c'est vrai. Mais moi, je comprends. C'est pas de la faute de la crime.
Non,
arrêtez de mentir. Vous êtes des menteurs. Parce qu'on t'a pas dit.
Non, mais il peut te donner des pulsions à un moment, mais pas au point de monter sur un braco. Parce que j'ai fait la crème.
Quand tu écoutes le son, ça a l'air grand.
Attention. Après, dans son rap de rue, si t'es déjà un mec de quartier qui est dans certaines choses, ça va peut-être te conditionner. Après, te conditionner jusqu'à faire des dingueries, je pense pas. Mais que tu le veux ou non, il y a une influence. Tu vois, je comprends pas. En fait, quand il parle de ça, faut arrêter de faire semblant comme si on comprenait pas. Quand on parle de pur de.
J'ai pas dit que t'avais dit ça.
Mais tu nous dis qu'il n'y a pas d'influence.
Non, j'ai pas dit qu'il n'avait pas d'influence. J'ai pas ce que j'ai dit.
Mais tu t'es offusqué.
Non, bah oui. C'est pas ça, c'est que vous dites que ça influence d'un mauvais côté les jeunes,
c'est pas ça qu'on a dit, c'est que, comme tu dis, en fait, ça dépend comment tu, comment tu prends la pièce, côté pile ou côté face, bien sûr, mais c'est la vérité,
Laisse cœur,
c'est exprimé. T'as la succès, mais arrêtez de faire semblant. Mais les gars, on parle de pur de rêve d'homme, c'est pas tout le monde qui en parle, arrêtez de faire semblant vous aussi. On parle de braquage, dragon, mais tu peux pas dire que ça conditionne pas certaines personnes, mais comme nous aussi, on influence.
Qui vivent déjà trucs.
Et,
hein.
Et comme nous, oui, premier acteur, et même
il y en a d'autres qui vont s'identifier, d'autres qui vont le prendre comme un divertissement. Voilà. Mais c'est pas pour ça que la crime, il va inciter les jeunes.
Mais non,
ça va
pas dit ça.
Mais non, c'est un peu ça. Non, mais c'est un peu ça. C'est la crime.
Non, il a
dit
c'était dans le game.
Il va faire une mauvaise influence.
Écoute ça, c'est ta femme. C'est ta bande sonore.
Mais bien sûr,
t'es pas dans le truc, tu vas écouter ça.
Dans le truc, bien sûr. C'est genre.
Si t'es juste quelqu'un qui pousse à la salle, tu vas pas. Genre, ça te motive à pousser plus fort. Mais t'es pas en mode, sort de la salle et je rafale le premier joueur.
Tu vas forcément après avoir écouté la crime.
Absolument pas.
Voilà.
Ouais. Bah non, mais personne dit ça.
Genre lui, il allait chez Philippe Lain, par exemple.
C'est pour ça que tu vois l'influence. Moi, je parle plus de conditionnement que d'influence. C'est à cause de lui que. Non, ça c'est une formule. Mais en vérité, que tu le veux ou non, il y a une influence, il y a un conditionnement positif ou négatif. Après, comme on dit, il y a à boire et à manger. Et nous-mêmes, en tant que médias, nous aussi, on influence. Et nous aussi, quand on relaie ça, bah, c'est un certain type de rap aussi. Il ne faut pas se voiler la face.
Mais alors, on revient sur le sujet des icônes. On va clôturer là-dessus.
D'ailleurs, tu as lancé le sujet, tu n'as pas répondu. Hein.
Ouais, ça, c'est...
Il a lancé la bombe, il est parti.
C'est ça.
Est-ce que je le place au rang de légende?
Attends.
Elle a dit oui. Non, mais pour
Céline, elle a
dit
oui. Ouais.
Non, moi, j'ai pas le droit de dire oui, quoi.
On n'était pas sûr. Non, mais comme ça, on sait.
Mais non, après, moi, je pense que je rejoins Kersh sur le fait que, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des artistes, quand tu les mets en légende et que tu te dis, est-ce que Lacrim, je le mets au rang de ces artistes-là, sans manquer de respect, bien évidemment, en ayant tout le respect pour sa carrière, tu te dis, je le mets peut-être un cran en dessous de légende, tu vois. Peut-être à l'instant T où je te parle. Peut-être que dans quelques années, peut-être qu'on reprend le bilan. Ouais, si je refais le bilan dans quelques années, je me dis peut-être que finalement, si légende, tu vois. Mais je trouve que le mot icône, ça lui va parfaitement. Tu vois. Il a représenté quelque chose à un moment donné. Il a inspiré des artistes, tu vois. Il y a des artistes, quand ils sont arrivés, tu te dis, ouais, lui, il a écouté du Lacrim, tu vois, ça se sent, ça se voit. Et je pense que c'est déjà amplement suffisant. Peut-être que le temps nous dira que c'est une légende. À voir.
Non, mais dans l'histoire du rap français, on est obligé de citer Lacrim.
Mais oui.
On n'a pas cité.
Non, mais oui, donc oui. Ça rentre dans le cadre d'une légende, je suis désolé.
Icône, ça te va pas?
Icône, c'est pas assez fort.
C'est pas assez fort.
Toi, tu veux légende.
Parce que je pense qu'il y en a d'autres qui rentreraient plus dans la case d'icône.
Moi, je mets icône parce qu'il touche plein de domaines différents et que quand tu penses au rap français, tu dois parler de Lacrim, mais tu vas pas parler que de la musique, tu vas parler d'autres choses aussi.
Quand
je pense à IAM, genre les NTM.
Parce que c'est encore plus long dans la carrière.
En vrai,
il faut attendre un certain nombre de temps de carrière, je sais pas.
Mais Lacrim, c'est clair qu'il reste vraiment dans le cadre quand même du rap. Quand on est dans le rap, on a cette impression-là. Parce que c'est l'un des plus gros. Mais quand tu sors du rap, t'as un peu moins ce ressenti-là. Donc là, ça se discute. Quand on prend l'exemple, tu vois, d'un NTM, tout ce que je t'ai cité là, bon, je t'ai pris des vieux, mais en vrai, Booba, il rentre dans cette case-là totalement. Eh ben, tu vois, typiquement, c'est un artiste. Quand tu parles, quand tu vas ailleurs, quand tu vas dans un autre pays, des gens qui écoutent pas spécialement du rap français, tu leur demandes des noms, t'as des Booba qui reviennent. Même à l'époque, t'avais La Fune qui revenait beaucoup quand j'allais à l'étranger. Tu vois, là, tu peux peut-être les mettre dans cette case-là.
Je sais pas, faudrait faire un test, un sondage avec des gens qui écoutent vraiment zéro de rap français.
Ouais, faudrait demander. J'ai été choqué par rapport à Ninho. Moi, j'ai l'impression que Ninho, toute la terre le connaît. Mais t'as des gens qui sont pas dans notre culture qui le connaissent pas. Donc, tu vois, Rof, je le mets aussi en légende, tu vois. Typiquement, c'est ça. Chroniqueur, toi, t'en penses
quoi? Non, légende, non, parce que je pense qu'il a pas fédéré suffisamment. Pour moi, c'était niche, une grosse niche, mais déjà rien que de par sa voix, il a toujours été clivant.
Ouais, c'est vrai.
Par rapport aux thématiques qu'il a abordées, ça n'a pas été peut-être assez universel. Enfin, il y a un moment, il y a quelque chose qui fait que
ça a été limité,
que finalement, sa proposition, elle est quand même un peu trop limitative, même avec toute la carrière qu'il a et avec toute la puissance qui a pu résonner chez les gens qui l'ont kiffé. Je pense qu'il y a un côté un peu trop limitant pour le mettre au statut de légende, tu vois. Et même, finalement, dans ce qu'il a inspiré aux autres, là, tout à l'heure, on a donné des exemples, mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est incomparable par rapport à tous les petits que Booba a eu, à tous les petits que Nekfeu a eu. Même un Freeze, il a peut-être même plus de petits aujourd'hui alors qu'il vient d'arriver. Enfin, comparativement à Lacrim, il est plus récent dans le game. Qu'un Lacrim, tu vois.
Ouais, je sais pas pareil, parce que c'est spécial, après, le style de Freeze, tu vois. Et du coup, quand il est décliné, tu le ressens direct. que Lacrim.
C'est Lacrim, c'est très marqué aussi, c'est marqué, sa manière de faire. Donc,
En fait, tu peux prendre du Lacrim et d'autres rappeurs. En fait, tu vois, t'en as plein qui, en fait, au final, ont repris un peu ce côté Lacrim. Et en même temps, ils sont inspirés aussi d'autres rappeurs. Et du coup, ça s'est déployé, tu vois. Et c'est moins marqué que quand tu fais un bébé Freeze, par exemple. Tu sais direct que c'est un Freeze.
Mais, si tu prends le concept storytelling, rap de rue et tout, c'est pas, il n'a rien inventé non plus.
Non, je ne crois pas ça. Mais plus dans l'identité, dans la signature vocale, la manière de rapper, même, il y en a plein qui ont repris aussi des voix aussi qui sont très proches de lui.
Bon, bah les gars, sur ces belles paroles, on va clôturer le débat.
Le titre, ça va être Lacrim, icône ou légende?
Non, mais icône et légende, c'est bien. C'est lourd, très lourd.
Mais icône, oui, par contre, icône, c'est sûr.
Trois icônes, non, quatre icônes, une légende.
Bah justement, on va demander
aux gens.
Mais après, la vie, tout le rap français en légende, après, derrière.
On va demander aux gens dans les commentaires, est-ce qu'à votre avis, Lacrim, c'est une légende ou pas? Parce qu'icône, c'est trop facile. Dites-nous en commentaire donc si Lacrim est une légende ou pas, et dites-nous surtout pourquoi. Et n'oubliez pas de mettre votre like, hein, très important, et de partager un maximum cette émission. Je trouve que l'émission était très lourde. Je trouve que vous êtes allé vraiment dans... Céline, tu t'es battue pour ce en quoi tu croyais.
Essayez.
Non, mais là, vraiment. Essayez.
Non, mais c'est beau.
Je
non,
me
mais
suis fait engueuler.
Moi, j'aime.
Non, mais c'est important, c'est important.
Engueule, des fois. Ouais.
Quoi, pas légende. En tout cas, c'était très, très lourd. Merci à vous. C'était Chris d'Iconic pour Deal et Terme. Cheers.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.